Interview. 1. L'interview du jour.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour à tous. Pour l'interview du jour aujourd'hui, je suis en compagnie de trois femmes, trois artisanes qui tiennent une boutique dans le petit centre de Die. Nous sommes au studio de Luc pourtant. Voilà, bonjour à vous trois.
Bonjour.
Alors je vous laisse vous présenter chacune les unes après les autres. Qui veut commencer ?
Je suis Amona, je fais du chocolat avec mon compagnon. C'est le chocolat Hieré, un chocolat rond avec un singe.
Je suis Maëva, je suis productrice de plantes médicinales et je distille, je fais des huiles essentielles, des eaux florales et des huiles de soins, des baumes.
Et moi c'est Julia, je fais des savons.
Tu fais des savons. Alors, les agités du local, c'est une boutique qui est née il y a combien de temps ?
Elle a ouvert en 2014, mais je pense qu'il y avait une bonne année de réflexion avant ça. Quand ils ont ouvert la boutique, ils étaient 8. Toi, tu y étais, Amona ?
Non, je ne faisais pas partie du collectif qui a créé.
Ouais. Et donc, au moment où la boutique a ouvert, c'était rue Émile Laurent. Et il y avait la boutique à l'avant. Et puis à l'arrière, il y avait une salle dans laquelle il y avait des ateliers la journée, et des concerts, des spectacles. Voilà, il y avait une programmation assez rythmée.
Riche.
Et ça fait combien de temps, alors, vous trois, que vous êtes, vous faites partie de l'équipe des agités du local ?
En fait, ce premier collectif a fait tout le boulot de monter l'association, l'espace de vente, tout le fonctionnement. Et au bout de 3 ans d'ouverture, en 2017, ils étaient pour beaucoup fatigués. Et ils ont voulu aussi suivre quelque chose de démocratique, de passer la main. Moi, j'y suis depuis 2014 comme exposante. Et puis, mes compagnes...
Moi, j'y suis arrivée en 2015 comme exposante.
Donc, Julia Desavons,
ouais.
Oui.
Quand ils ont passé la main en 2017, j'ai repris le bureau avec trois autres personnes qui venaient de l'extérieur. Et Véro, qui était dans le précédent bureau et puis qui est resté avec nous.
Moi, je suis arrivée en 2018, je pense. 2017 ou 2018, oui.
Donc c'est c'est une boutique qui fluctue dans l'équipe qui produit ?
Historiquement, ça a fluctué pas mal, mais là, ça fait 2 ou 3 ans que c'est à peu près stable, qu'on est à peu près la même équipe. Et avec une boutique, on a déménagé, on a un meilleur emplacement, mais une boutique qui est petite, où du coup, on ne peut pas forcément accueillir de nouvelles personnes pour l'instant.
En tant qu'artisan, artisane, voilà. Combien vous êtes alors, en tout ?
On est 16, du coup. Il y a 16 productions différentes, mais 17 personnes, du coup, qui font partie de l'association. Et donc, c'est une association et une boutique autogérée, en fait. Du coup, on est chacun à son statut particulier et on se regroupe en association pour vendre nos produits ensemble dans le cadre de la boutique.
Alors, qu'est-ce qu'on entend par une boutique autogérée ?
Eh bien, c'est la boutique de personnes. De tout le monde à la fois.
Qui c'est qui gère ? Qui c'est qui gère ?
Tout le monde. On a chacune une. En fait, on a mis en lumière tout ce qu'il y avait à faire pour que la boutique fonctionne. Et puis, on s'est réparti des tâches. Et de manière équitable, ou en tout cas, ça peut fluctuer selon si pour les 6 prochains mois, on sait qu'on n'a pas le temps, on peut faire un pas en arrière. Quand on n'a plus envie, on fait un pas en avant. C'est. Ça marche assez bien comme ça. Et on se réunit une fois par mois.
À 16, oui, vas-y.
Et on partage les temps de permanence. Donc, c'est souvent pas la même personne quand quelqu'un rentre dans la boutique. Il peut avoir affaire, ce soit à celle qui fait de la couture, celle qui fait des plantes médicinales, celle qui fait des savons.
Voilà. Alors, quelle forme d'artisanat on retrouve dans la boutique ?
Il y a plein de choses différentes. Il y a de l'artisanat et il y a des productions plus agricoles un petit peu. Il y a des produits alimentaires un peu. Il y a de la couture, il y a de la poterie. Il y a 3 potières dans la boutique. Il y a des boucles d'oreilles, des bijoux, donc le chocolat, les savons. Des produits transformés alimentaires à base de plantes médicinales aussi, comme des sirops, des gelées.
Il y a du textile, autant des vêtements que des tours de cou, des chaussons à certains moments, de la laine, des doudous.
De la cosmétique, un peu, aussi.
Il y a des dessins, du chocolat.
Alors, dans la conversation, j'aimerais bien qu'on présente un peu l'histoire de vous trois, en fait, l'une après l'autre. Et si on commençait par le chocolat?
Et ben, nous, on a commencé notre activité justement en 2014 avec mon compagnon Thomas. Je suis ivoirienne et on est allé vivre un an et demi en Côte d'Ivoire avec Thomas. Et on a voulu, enfin, on est venu à cette idée de manière par hasard, on va dire. Notre idée, c'était de transformer le cacao en Côte d'Ivoire pour créer des emplois sur place et diffuser le savoir-faire. Et voilà, on a monté un atelier en 2014 avec des machines ivoiriennes. On travaille avec une coopérative de producteurs de cacao bio et équitable. Et on fait un chocolat qui est assez rustique dans sa consistance. Il est peu transformé, donc il est torréfié, décortiqué, broyé. Il n'y a pas d'affinage du broyage, donc on sent le grain de cacao, on ne rajoute pas de beurre de cacao, pas de lécithine, etc. Donc c'est un chocolat un peu particulier. Et ici, à Glandage, on a un atelier où on fait fondre les blocs de chocolat qu'on ramène de Côte d'Ivoire et on prépare les recettes avec d'autres ingrédients pour aromatiser le chocolat, par exemple. Et voilà. Après, on a donc toute la partie commercialisation. On était bien contents de rentrer dans cette magnifique boutique.
Vous vendez exclusivement dans cette boutique ?
Non, on vend en France, partout, et puis un petit peu en Suisse, voilà. Mais la partie de vente en local représente à peu près la moitié de notre chiffre d'affaires. Donc, les agités du local, c'est important pour nous.
Comment vous avez rencontré les agités du local ?
Eh bien, Hélène, l'une des créatrices, était une voisine, une amie, et c'est comme ça qu'on est rentrés.
Alors, comment on devient chocolatière ?
Dans mon cas, par hasard, puisque je n'ai pas de CAP de chocolaterie.
Ça existe, le CAP chocolaterie ?
Oui, pour partir du chocolat et faire des bonbons de chocolat. Pas pour partir du cacao et faire du chocolat. Et on est devenu chocolatier parce qu'on ne savait pas quoi faire en France. C'était de la reconversion. On a travaillé à l'étranger et moi, je ne savais pas trop... Enfin, j'avais pas spécialement d'idée de métier sur le territoire français. Je savais pas trop quoi faire. Et c'est un prolongement en fait du fait qu'on ait vécu à l'étranger, travaillé dans des thèmes de développement économique, d'autres façons de vivre de son travail.
C'est un métier passion. Alors, en fait, l'artisanat, c'est ça un peu, non ? Si on peut le présenter.
Ouais, carrément.
Alors, peut-être on peut passer à Julia, les savons. Dis-moi en plus.
Moi, j'ai commencé un peu par hasard à faire des savons. J'avais 2 enfants tout petits avec moi. Il fallait que je gagne de l'argent. Et un jour, je suis tombée sur un bouquin. Comment faire ses savons soi-même, ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai commencé à en faire pour moi, et puis pour faire des cadeaux. Puis après, on m'en a acheté pour faire des cadeaux. Puis après, j'ai commencé, j'ai fait des petits marchés. Je trouvais ça super. C'était un job que je pouvais faire chez moi. En fait, j'ai toujours eu un atelier à la maison. Donc, je pouvais faire ça avec mes enfants. J'allais au marché avec les enfants. C'était parfait. Et puis, les agités du local ont croisé ma route. Donc,
alors, raconte-moi la rencontre.
Eh ben, moi, c'est Juliette qui était potière à l'époque et qui faisait partie du groupe de départ aussi, qui m'a plusieurs fois dit « Ah, mais tu devrais venir aux agités ». Et moi, je trouvais que j'avais pas un produit assez fini, je trouvais que c'était encore un peu bancal, j'avais pas de quoi proposer quelque chose qui soit un peu à la hauteur de ce qui était proposé dans la boutique. Je trouvais que c'était vraiment hyper beau, tout ce qui était proposé, les savoir-faire. Moi, j'avais l'impression d'être vraiment pas légitime du tout. Et le fait de rentrer dans cette boutique, ça m'a vraiment aidé à développer mon activité, à croire en ce que je faisais, que c'était pas... Non, c'était pas si nul, en fait. Et puis à caler des choses. Quand on part comme ça de rien, ben, y a un moment, on apprend à faire de la compta. Voilà, on range ses papiers.
Eh oui, parce que je pense qu'il n'y a pas que le moment super passionnant et enjoliveur de créer ce qu'on fait. En fait, il y a la gestion de tout, de la vente.
En fait, c'est ça, c'est que tu pourrais faire que produire, mais dans ces cas-là, il te faudrait quelqu'un pour commercialiser et puis...
Et tout gérer, l'arrière métier, quoi.
Ouais, l'arrivée des produits, tout, la pub, la communication autour de ça. Et puis c'est un job qui est hyper solitaire, en fait. Donc, petit à petit, t'apprends à tout faire du début à la fin. Et moi, j'ai trouvé que faire partie de cette boutique, c'était aussi pouvoir se mélanger à d'autres artisans, à d'autres artisanes, échanger sur toi, tu fais ça comment, avoir du soutien dans des moments. Et puis
partager des élans aussi. Ouais. Une fois, on s'est dit, tiens, on ferait bien des marchés en Suisse.
Et ben, on y est allé. Hein.
Oui, parce qu'on a toutes des problèmes de commercialisation, évidemment. Et voilà, effectivement, seul dans son coin, il y a plein de choses qu'on apprend moins vite ou on se désespère d'être seul. Et partir en Suisse ensemble, c'était aussi partager les points forts de chacune.
Alors, dans quelle mesure la démarche de commercialisation est difficile pour une artisane?
Moi, par exemple, j'ai du mal à allumer mon ordinateur. Donc, actuellement, ma seule commercialisation, c'est la boutique des agités. Je ne fais plus de marché, je ne vends pas par Internet, parce que je trouve que ça n'a pas de sens.
Qu'est-ce qui a du sens pour toi?
De vendre mes produits aux gens qui habitent dans le coin, en fait. Je me dis que des savons, on en fait partout. Il ne faut pas qu'ils partent trop loin, ces choses, en fait. Il faut que ce soit les gens d'ici qui s'en servent. Voilà. Que ce soit un prix abordable. Ça reste du savon, en fait. Hein. Donc, rester dans des prix un peu bas.
Après, justement, la problématique des prix, ça, est-ce que ce n'est pas quand même un thème dans l'artisanat local? Oui.
Si, c'est sûr. Surtout que parfois, on est aussi plusieurs producteurs ou artisans à faire des choses un peu similaires et que c'est toujours difficile de trouver le prix juste. Mais il y a plusieurs façons de faire. Soit on essaie de s'accorder, soit on part du principe que chacun peut avoir sa politique de prix et puis que c'est pas gênant et qu'il y en a pour tout le monde. Enfin, voilà. À la boutique, il y a un peu les deux. Il y a un peu... au niveau des poteries, il y a des prix différents et en fait, c'est pas le même positionnement, pas la même production, c'est pas gênant du tout. Moi, je sais que par exemple, dans les huiles essentielles, il y a certains autres producteurs qui regardent vachement comment se positionnent au niveau des prix. Moi, je m'en fiche, chacun fait comme il a envie.
Donc, toi, Maëva, tu fais des plantes médicinales.
Oui.
Comment t'en es arrivée là?
Moi, à la base, je commercialisais plutôt des huiles essentielles, des cosmétiques bio. Je me suis beaucoup mise à utiliser ça. C'était dans les années 2005, où je les vendais et je les ai beaucoup, beaucoup utilisées. Et puis, petit à petit, j'en suis venue à quitter la ville, à revenir à la campagne et à me mettre à produire, en fait... les huiles essentielles que j'utilisais énormément et que j'aime depuis longtemps. Voilà.
Donc, tu as fait une formation dans le coin?
Non. Alors, pas vraiment. Non, en fait, j'ai plutôt une formation théorique au niveau de l'aromathérapie. Et après, au niveau de la pratique, j'ai vraiment appris sur le tas avec des cueilleurs, des producteurs, des distillateurs. J'ai pas fait de formation. En fait, à la base, je suis venue dans la Drôme parce que j'avais en tête de faire le CFPPA à Nyons. Et en fait, quand je suis arrivée ici, j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Du coup, j'ai pas fait la formation et je me suis directement, j'ai directement rencontré des personnes qui m'ont fait passer leur savoir-faire, avec qui j'ai commencé directement à travailler, à produire, à cueillir, à distiller, voilà. Transformer, je le faisais déjà. J'avais aussi une boutique à Lyon à un moment donné où je faisais des ateliers de création de cosmétiques. Et ça, c'est pareil, c'est un truc que j'aime faire et que je fais depuis longtemps. Et que du coup, pour toute la partie transfo, les baumes, les huiles de soins, c'était déjà quelque chose que je faisais depuis un moment et qui me plaisait bien. Du coup,
voilà. Est-ce que ce n'est pas un accomplissement de... Enfin, je ne sais pas si vous avez réussi à vivre de cette passion, Mais où est-ce que vous en êtes par rapport à ça ?
Et ben pour l'instant, c'est sûr que c'est pas un temps complet, enfin c'est pas un salaire à temps complet, mais c'est déjà une activité qui est qui commence à être un petit peu rentable, ou en tout cas je me fais très plaisir à faire, qui me permet d'être assez c'est assez souple finalement, parce que il y a des moments de cueillette que je peux pas louper, c'est maintenant et ça on y va, enfin c'est vrai que toute la période d'été est assez chargée, la transfo ça se fait un peu plus quand j'ai le temps, ça permet enfin c'est plus souple que du maraîchage ou des choses où il faut vraiment être régulier toute l'année tous les jours. Et c'est pareil, je pense que là, j'en suis à un point où j'ai bien développé mes produits et mon réseau un peu localement, mais où je pourrais vraiment essayer de trouver d'autres débouchés en fait, pour aller un petit peu plus loin et que ça soit une activité un peu plus rémunératrice. Quoi.
Et les autres, chocolat, savon, est-ce que la vie vous sourit ?
Moi, j'ai pas envie de chercher d'autres endroits où vendre que la boutique. Donc, je fais seulement les savons.
Déclaration aux agités du local.
Je fais seulement les savons qui vont être vendus à la boutique. Je sais à peu près quel volume il y a dans l'année. Et ça me suffit, en fait. Parce qu'à côté de ça, j'ai une autre activité. Et que j'aime bien faire plein de trucs différents. Je crois pas que je pourrais faire que de la savonnerie. Je pense qu'à un moment, ça m'ennuierait. Là, j'ai toujours beaucoup de joie quand je fais de la transfo, surtout l'hiver. Donc, je sais que quand arrive l'hiver, ben, je vais passer du temps au labo, je prends soin de l'endroit. Ça me procure beaucoup de plaisir, en fait. Après, au niveau de la somme d'argent dont j'ai besoin, je compte aussi sur une autre activité. Et ça fait que c'est à l'aise, en fait. Voilà, il y en a toujours un pour compléter l'autre. Et ça marche.
Est-ce qu'il y a des actualités alors pour les agités du local à communiquer ?
On a une relieuse qui est arrivée il y a quelques mois.
C'est quoi une relieuse ?
Eh ben, elle part de la peau qui vient juste d'être tannée et du papier à plat et elle fait des carnets magnifiques avec.
Donc en vente là bientôt ?
Ouais.
Ça y est ?
Elle coud les cahiers les uns aux autres avec un peu de colle et de la magie. Elle fait des trucs magnifiques.
Donc les agités du local, c'est un magasin autogéré à Die. Est-ce qu'on peut redonner l'adresse ?
C'est 32 rue de l'Armellerie.
Ouais. Vous êtes connus quand même dans le coin, je pense.
Oui, on a nos habitués, je crois.
Oui,
oui. On va aussi participer aux journées européennes des métiers d'art en avril.
Vous avez été invités ?
Bah, certaines d'entre nous sont des artistes, donc oui.
Alors, comment on différencie l'artiste de l'artisan ?
Eh bien, moi, je dirais que mes créations ne sont pas uniques. À chaque savon que je fais, en fait, il ressemble fortement à un savon précédent, par sa recette et par sa forme. Disons que je peux lui mettre une étiquette qui est toujours identique. Je pense aux potières, je crois qu'elles ne font pas de tasses identiques. Elles ont des choix de couleurs, il y a de la créativité, en fait, dans leur métier. Je pense que les couturières, c'est pareil. Il y a une créativité énorme. Moi, je dirais ça, mais...
C'est aussi un contre-goût à l'industrialisation, non ? Consommer local, produire local pour le local. Qu'est-ce que vous en dites ?
Et de manière artisanale, donc à petite échelle, sans un excès d'investissement dans des machines, sans que cet excès de capital pousse à la concentration. Enfin, dans le domaine du chocolat, en fait, il y a peut-être 6 multinationales qui produisent 90% du chocolat qu'on mange.
Lesquelles ?
Il y a ADM Cargill, par exemple, qui est le numéro 1. Enfin, c'était genre le numéro 1 et le numéro 3 qui se sont fondus ensemble. Comme ça, ils sont sûrs de faire vraiment une grosse place pour eux-mêmes. Et eux, en Côte d'Ivoire par exemple, c'est vraiment quelque chose de très important. La Côte d'Ivoire est un gros producteur de cacao et c'est un producteur de cacao pour les multinationales justement. Et donc cette concentration fait qu'en face, le petit paysan qui lui est pas du tout concentré, en Côte d'Ivoire en tout cas, n'a pas de pouvoir sur les prix. Mais bon, l'artisanat c'est aussi démocratiser l'économie.
Alors pourquoi on irait acheter les huiles essentielles aux agités du local et pas à la pharmacie ?
C'est pas du tout la même chose. Non plus. Ah, c'est le même principe même que pour le chocolat. C'est vrai que quand il y a des hectares de champs à ramasser à la machine et à distiller dans des gros appareils où on parle surtout rendement, c'est pas le même produit fini que nous, les petits producteurs, cueilleurs qui ramassons à la main à la faucille, à un stade précis, souvent en milieu naturel, et qui distillons dans des plus petits appareils, mais où du coup on parle moins rendement, on est plus attentif à la maturité de la plante, au résultat du produit fini. Enfin voilà, c'est pas du tout. C'est vraiment une démarche différente et du coup, je pense qu'elle vibre différemment aussi des huiles qui sont issues du travail des petits producteurs. C'est sûr que c'est différent.
Donc voilà, c'est magique. On part d'un produit premier, d'une matière première, et on apporte du travail avec, je pense, du soin, de l'amour, pour en faire quelque chose de solide et à vendre aux gens qui sont à côté. Moi, je trouve ça admirable, en tout cas.
Et moi, j'aime beaucoup la vente directe aussi. C'est pareil, pour l'instant, je ne vends pas du tout sur Internet. C'est soit les agités du local, soit les marchés. En fait, je fais beaucoup des marchés. Et c'est aussi...
on vous retrouve
à Luc. Moi, je fais le marché à Luc, on dit ouais, d'avril à septembre, tous les vendredis matins. Et sinon, ponctuellement, sur la période de Noël, les vacances de février, mais surtout d'avril à septembre. Et du coup, oui, c'est chouette aussi d'être directement en lien avec les personnes qui vont utiliser les produits, de pouvoir parler de ce qu'on fait, pouvoir expliquer. Ça fait aussi du lien qui est chouette.
Alors, les chocolats, est-ce qu'ils sont sur le marché? On fait le tour.
Non, nous, je pense que c'est un produit qu'on n'achète pas forcément toutes les semaines sur le marché. On a essayé, mais ça ne marche pas trop.
Et les savons?
Moi, j'ai fait le marché longtemps. J'ai fait le marché de... Il y a un moment, je faisais beaucoup trop de marchés. Mais j'ai fait le marché dit longtemps. Et depuis que les agités du local ont déménagé et que la boutique cartonne, j'ai plus besoin de faire le marché. Et c'est un sacré soulagement dans mon quotidien, en fait. Ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie de faire le marché. Voilà. Je suis plutôt contente.
Alors, qu'est-ce que c'est l'atout de votre métier et, à contrario, le désavantage?
Moi, je dirais que l'atout, c'est que les savons, ça ne se périme pas. Donc, je peux en faire...
À l'infini.
À l'infini, et puis les vendre dans 10 ans, si j'ai envie.
Est-ce qu'un vieux savon, c'est meilleur qu'un neuf savon? C'est différent.
Il paraît que c'est mieux parce qu'il a eu le temps de sécher complètement. Donc, ça fait un savon plus dur qui ne va pas fondre sur le bord de ta baignoire. Et tu vois, voilà. Après, je ne sais pas parce qu'en fait, je ne mets pas 10 ans à les vendre. Alors...
C'est très bon signe. Un atout, un désavantage?
Bon, l'atout du chocolat, c'est que bizarrement, quand je dis je suis chocolatière, les gens ont...
Des étoiles dans les yeux?
Voilà.
Ouais, comme les miens à l'instant. Chocolatière.
Le désavantage, c'est que donc il faut être à la hauteur.
Tu le mélanges, le chocolat? Avec d'autres, des noisettes
Oui, on fait des chocolats noirs, mais aussi par exemple pralinés, mais jamais avec de lait parce que voilà, il n'y a pas de poudre de lait artisanale.
À cuisiner ou à déguster?
À cuisiner aussi, mais plutôt à déguster.
Elle fait aussi une super pâte à tartiner qui est complètement addictive.
Ah!
Et des fèves caramélisées délicieuses.
Voilà, merci pour ce quart d'heure de pub.
Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose à dire aux auditeurs, auditrices de Erdiwa aujourd'hui?
En tout cas, ceux qui ne connaissent pas la boutique, c'est vraiment indispensable de venir voir. Non, mais c'est vrai, même nous, en tant que... Moi, quand je vais à la boutique vendre, c'est juste trop chouette d'avoir toutes ces créations de toutes ces copines autour. Ça fait vraiment une magnifique boutique pour les cadeaux. C'est vraiment chouette.
Et moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a pas mal d'artisans ou d'artisanes qui passent à la boutique pour nous rejoindre. Pour nous, la boutique fait 22 mètres carrés, donc on est limité. Mais qu'on tient une liste de gens qui aimeraient nous rejoindre pour que potentiellement, ils fassent une autre boutique tous ensemble. Et qu'on est prête à partager nos outils. Enfin, nos outils, ceux qui n'ont même pas été créés par nous, mais par nos prédécesseurs dans l'assaut. Des outils de compta, des outils pour tenir une boutique à nombreux, en fait. Parce que c'est pas rien d'avoir une caisse à 16 et à la fin du mois de se répartir la somme d'argent qui a été gagnée. Bon ben voilà, nous là-dessus on a un protocole qui fonctionne et qu'on est prêt à partager.
J'ai une dernière question. Selon vous, quel est l'état de l'artisanat dans le Diwa?
Ben, j'ai l'impression que pour vivre dans le Diwa, il faut créer son emploi, enfin pour beaucoup. Et donc, c'est une terre d'accueil pour des gens qui veulent faire de l'artisanat. C'est aussi... L'artisanat, c'est pas... Je pense que souvent, c'est pas facile, du point de vue économique, d'en vivre pleinement. Et c'est sûrement plus facile de vivre de l'artisanat en zone rurale avec plein d'autres artisans autour que dans une grande ville, par exemple, où c'est peut-être plus difficile de survivre avec peu d'argent. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de variétés et beaucoup de richesses dans l'artisanat local.
Ouais, je crois que ce qui sauve les artisans du coin, c'est que c'est un endroit touristique. Donc, on vend à des gens du coin. Ça, c'est certain qu'il y a... Il y a des gens qui sont hyper intéressés par les produits artisanaux, mais que le tourisme fait beaucoup. Et Noël aussi.
Le tourisme fait beaucoup, mais on est aussi dans un endroit où les gens sont très consommateurs aussi de produits locaux. Enfin, moi, je vois pour mes huiles essentielles, c'est vrai qu'on est plein de producteurs. Et en même temps, les gens sont très utilisateurs en fait, de produits naturels, d'artisanat local. Du coup, ça, c'est chouette aussi. Enfin, ça se ressent.
Oui, c'est très porteur. Mmh. Et puis, il y a aussi une stratégie qui est d'aller trouver des clients plus loin. Donc, on parlait de la Suisse, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont essayer de faire des marchés en ville, plus loin, à Grenoble, à Marseille, à Lyon, notamment à Noël.
Moi, j'ai dans la tête les populations qui sont peut-être invisibilisées dans le Diwa. Est-ce que vous avez deux mots à dire là-dessus, par exemple? Je sais que c'est un peu une problématique chez ma meilleure amie Kikou, c'est qu'elle trouve que les populations qui viennent consommer sont un peu les mêmes profils, des vieilles personnes, pas forcément des vieilles personnes, mais en tout cas qui ont un capital, qui puissent leur faire consommer des produits qui sont locaux, etc. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a quelque chose à dire dessus en tant qu'artisane? Comment est-ce que vous avez déjà eu cette réflexion en vous?
Moi, j'ai l'impression que sur le marché, on touche plus facilement des personnes qui ont moins d'argent à donner à l'artisanat. Et du coup, on peut toucher par certains prix qu'on peut rendre abordables à n'importe qui, j'imagine. Alors que c'est vrai que la démarche d'entrer dans une boutique d'artisanat, je pense que c'est deux choses vraiment différentes.
Ça dépend des produits aussi. C'est vrai que c'est plus compliqué d'acheter une jupe à 60 euros qu'un savon à 5 ou qu'une huile essentielle à 8. Enfin, c'est sûr que... Et puis c'est surtout aussi parce que quand on a peu de sous, on dépense dans des choses utiles et qu'on ne va pas forcément se faire plaisir sur des choses qui sont moins utiles. Du coup, il y a ça aussi. Mais pour le coup, dans la boutique, il y a un peu de tout.
Et... C'est vrai que récemment... On a été amené à réfléchir à qu'est-ce qu'un produit de première nécessité. Et à l'intérieur de notre groupe, on estimait avoir une bonne moitié de produits de première nécessité dans la boutique. Et...
Ouais, donc je pense qu'il y a, un peu un facteur de transparence aussi dans le travail, dans l'établissement du prix et tout. Parce que c'est vrai qu'on peut entendre des fois que c'est cher, qu'on ne peut pas toujours... se permettre d'acheter une paire de boucles d'oreilles à 32 euros, tout ça. Mais en fait, ce que je voudrais valoriser dans cette interview, c'est le travail artisanal derrière. Et en fait, il y a une loi aussi économique derrière selon laquelle on ne peut pas forcément s'évaporer en tant qu'artisan ou artisane. Et qu'il y a une transparence à avoir.
La concurrence ?
Oui, oui, il y a une histoire de concurrence, bien sûr. Mais voilà, c'est pour ça en fait que j'ai à cœur de vous inviter sur RDIWA. En fait.
Merci.
Mmh. Ouais, je crois que c'est difficile de comparer une plaque de chocolat qu'on achèterait dans un magasin avec ce qu'Amona propose, mais en fait ça n'a rien à voir.
Mmh. Après, nous on a fait un travail sur notre site internet de transparence sur les prix, d'être pédagogique sur. À quoi correspond le prix auquel nous on vend et à quoi correspond le prix auquel une tablette, par exemple, en supermarché est vendue. On dit souvent que sur une tablette de chocolat, il y a 6% qui va aux paysans. En réalité, nous, par exemple, on achète le cacao 2,5 fois le prix du marché mondial. Donc, en Côte d'Ivoire, le prix, il est à peu près, on va dire, à 1 euro la fève de cacao, le kilo de fève de cacao. Mais 1 euro, c'est à peine plus, voire à peine moins, que le prix de revient. Et à la fin, la tablette en supermarché, elle est vendue, disons, à 1,15 €. Et il n'y a que 6% qui va aux paysans. Mais quand on prend notre tablette à nous, qui est vendue 4 €, 4,50 € ou 5 €, en réalité, il n'y a aussi que 6% qui va aux paysans. Mais ce qui va aux paysans, c'est 2,5 € au lieu d'un euro. Donc largement plus. Enfin, il en a besoin pour vivre et vivre correctement, mettre ses enfants à l'école, etc. Mais il y a aussi toute la part du travail artisanal ici en France qui fait que la répartition en pourcentage, elle est la même, mais la répartition en valeur numéraire qui va réellement aux paysans, elle est très intéressante pour ce paysan. Et en face, le travail industriel, ça veut dire qu'eux, ils peuvent faire des sacrées économies sur le travail de transformation, et puis finalement un sacré poids de négociation sur le travail du paysan qui est sous-payé. Voilà. Après, il y a tout le débat sur oui, mais les produits bio, les produits locaux, les produits artisanaux sont trop chers pour les gens qui n'ont pas d'argent. Mais bon, c'est justement, c'est un territoire ici, le Diwa, où les gens n'ont pas forcément beaucoup d'argent, mais valorisent les produits de qualité. Il y a beaucoup de choses, en fait, dans le choix de comment j'utilise mon argent. C'est pas si simple, c'est pas que la rareté qui décide.
Donc, il y a une question de valeur du travail. Il y a la matière première qu'on achète. Il y a le temps qu'on fait pour travailler cette matière qui n'est pas forcément rémunérée au taux normal du marché à 12 € de l'heure. Voilà, donc en fait, si on répond à tous ces critères, on arrive à des prix qui sont élevés. Donc, en fait, le problème qui se pose, c'est ça en fait, c'est vraiment à quel prix on veut mettre le travail artisanal. Oui.
Ouais, de toute façon, on compte pas nos heures. Enfin, je pense que même en essayant de, quoi qu'il en soit, même si les prix paraissent élevés, de toute façon, on compte pas nos heures au SMIC. Quoi, ça, c'est sûr que non.
On n'est pas payé au SMIC. Non. Non.
Je crois que j'ai jamais compté mes heures.
Ouais, moi non plus. Ouais.
Moi, je veux bien les compter, mais c'est sûr que j'ai pas mon SMIC de toute façon. Mais j'y aspire.
Est-ce que vous comptez transmettre cette forme de travail ? Comment on la transmet ? Est-ce qu'il y a des jeunes autour de vous qui seraient intéressés en fait à aller dans cette direction ?
Oui, il y a. Enfin, moi, j'ai souvent des demandes de personnes qui voudraient faire des stages ou du woofing. Enfin, en fait, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de gens en plus qui cherchent à se reconvertir ou qui cherchent un autre mode de vie, de vivre de ce qu'ils font, etc. C'est sûr que oui, il y a du monde qui aimerait aller dans ce sens-là. Ouais.
Ouais, moi, il y a déjà plusieurs personnes qui sont venues faire des savons avec moi en se disant « Ah, j'aimerais bien faire ça. » Moi, ça me va. Enfin, j'aime bien leur dire « Ah, bah, tu vois, là, on peut faire comme ça. » Enfin, transmettre le savoir, c'est génial en fait. Le partager et le répandre, c'est, moi j'adore ça.
Et c'est ça qui est chouette aussi avec la vente directe. Même, ouais. même par rapport aux plantes médicinales, ça me fait penser aussi au fait que à la base c'est un savoir populaire et que moi j'ai appris tout ça, mais que n'importe qui peut aussi apprendre à utiliser, voire apprendre à fabriquer. Enfin, c'est sûr que c'est chouette de transmettre. C'est sûr.
Est-ce que vous avez des ressources à communiquer vis-à-vis de ça ? Un contact peut-être, je ne sais pas, pour les personnes qui voudraient passer à la boutique et s'intéresser à la poterie, ou des jeunes qui voudraient apprendre du chocolat ou des savons ?
Bah, faut passer à la boutique et puis prendre les contacts des personnes de qui vous êtes intéressé. On donne les contacts de chacune quand il est demandé avec plaisir.
Alors, vous n'êtes pas ensemble à la boutique. J'imagine que ça tourne, la personne qui tient la boutique. Rappelez les horaires, ça serait bien.
Hors vacances scolaires, c'est les jours de marché, donc les mercredis et samedis. Et on est ouvert du coup de 9h30 à 13h et de 15h à 18h30. Et pendant les vacances scolaires, c'est du mardi au samedi sur ces horaires-là aussi.
Mais ça change en été. Alors on n'arrive pas à se rappeler.
En tout cas, toute l'année, les jours de marché et pendant les vacances scolaires du mardi au samedi, sur des plages à peu près classiques.
Et si un jour, un beau matin, le roman allait au turbin, je prendrais mes jambes à mon cou et je partirais pour un Pérou. Dans la cordillère des Andes, je créerais la République d'Aglande.
C'était Maëva, Amona et Julia, trois artisanes des 17 artisans-artisanes qui travaillent aux agités du local. Merci à vous d'avoir répondu à mon appel.
Merci à toi.
Merci de nous avoir invités.
Et à bientôt chez Erdiwa.
Je ne travaillerai jamais debout. Pensez pas me faire bosser assis. Encore moins faire ta fée à genoux. Je le travaillerai.